J'avais une première question avant de vous passer la parole sur le rapport qui a été remis. Un petit peu, tu es passé assez vite dessus, mais peut-être tu peux t'arrêter sur les réactions qu'il a suscitées en France, notamment, et puis sur ces effets effectifs, si j'ose dire. De quoi est-ce que ce rapport est suivi? Est-ce qu'il est destiné à être un peu enterré comme pas mal de rapports? Quels sont les effets du rapport? Les réactions et les effets?
Pour ce qui concerne les réactions, je l'ai un petit peu évoqué. Pour ce qui concerne Felwine, il les a mesurées à partir de Dakar surtout, et il était assez rapidement après aux États-Unis. Donc lui, il a pu prendre la mesure des réactions sur cette partie-là, dans cette partie-là du monde. Moi, par chance, j'étais pas en France. J'ai vu les réactions depuis Berlin. Je crois qu'en France, enfin, en tout cas, celle qu'on a perçue n'était pas très, ni très positive, ni très intelligente. En tout cas,
un peu développer ça. Qu'est-ce qui s'est passé alors?
D'abord, on a été un peu. Felwine dit qu'il n'est pas surpris, mais moi, j'ai été surprise de la réaction extrêmement hostile du président du musée du Quai Branly, Stéphane Martin, qui pourtant avait soutenu notre travail, nous avait mis en contact avec les personnes les plus utiles au sein de son établissement pour établir ses inventaires, etc. Et dès que le rapport est sorti, il l'a qualifié de totem de la souffrance noire. Enfin, il nous a assigné une identité d'activiste. Il a prétendu que les gens qui avaient écrit ce rapport n'aimaient pas les musées, des choses comme ça, qui étaient en fait des assignations personnelles qui n'étaient pas en prise avec le contenu du rapport. D'ailleurs, Felwine a considéré qu'il fallait qu'on réponde à certaines de ces accusations de Stéphane Martin. On l'a fait dans Le Monde et dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Donc ça m'a surprise, d'une part. Et d'autre part, quand je dis que j'ai trouvé que le débat n'était pas de très grande qualité, c'est peut-être dû au fait que du côté allemand, le débat existait déjà depuis longtemps, dans l'opinion publique en général, dans la presse. Depuis l'été 2017, il ne se passait pas un jour. Et c'est en Allemagne et à Berlin, c'est lié à la constellation particulière de la reconstruction, vous savez, du château des rois de Prusse au centre de Berlin, qui avait été détruit par la RDA, enfin un peu amoché par la guerre, dynamité par la RDA. La RDA avait construit à la place un palais de la République, années 70, qui a été dynamité par l'Allemagne réunifiée. Et ils ont reconstruit un faux palais des rois de Prusse. Et dans ce palais des rois de Prusse, doivent être installés cette année, ça devait ouvrir cette année, et depuis hier, ils ont annoncé que ce serait repoussé d'un an, devaient être installées les collections d'ethnologie. Donc c'est une symbolique très lourde et c'est aussi une formule qui ne marche pas très bien, c'est-à-dire remettre des collections d'ethnologie dans le musée des rois de Prusse, dans un musée reconstruit qui donne le sentiment qu'on peut rétropédaler historiquement, retourner en arrière, alors que si certains pays africains demandent des restitutions, on leur dit « Ah non, ça c'est l'histoire qui les a menés chez nous, on ne peut pas réécrire l'histoire en arrière, etc. » Voilà, un complexe très lourd là, et depuis l'été 2017, la presse, les étudiants, la jeunesse, la télévision, la radio s'étaient emparés du sujet. Donc si on compare avec ce qui s'est passé en France vous avez une décision politique d'Emmanuel Macron un peu seul, issue d'aucune discussion venue du bas, qui propose quelque chose et qui surprend tout le monde, et par conséquent l'opinion n'est pas prête, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de grand débat social là-dessus. Et en Allemagne, jusque-là, jusqu'à l'annonce de Macron, il n'y avait aucun mouvement politique, un silence assourdissant des milieux politiques. Et en revanche, un terrain très près, les étudiants, même les lycéens, sont très demandeurs à la fac de cours sur le postcolonialisme, y compris dans nos disciplines d'histoire de l'art européenne, etc. Et donc ça a créé, si on prend l'image d'un billard, la boule qu'a poussé Emmanuel Macron est venu faire toc sur la discussion allemande, qui a pris une ampleur considérable, qui a fait bouger les milieux politiques. Et par comparaison, évidemment, la discussion en France est un peu pâle. D'autant qu'en France, tout de suite, est venu se greffer là-dessus le mouvement des Gilets jaunes et là, plus récemment, Notre-Dame. Ce qui fait qu'il n'y a pas de place, disons, dans l'espace public. Il semble qu'il n'y a pas de place pour discuter de ces choses-là. Ce qu'on peut dire aussi, après j'arrête, mais c'est que certes, certains acteurs, par leur autorité professionnelle, comme le président du musée du Quai Branly, ont pu prendre la parole haut et fort et considérer que ce rapport était inutile, etc. Mais on constate quand même que dans la génération des conservateurs, c'est-à-dire un niveau plus bas dans la hiérarchie, la jeunesse, les plus jeunes, les jeunes conservateurs, etc., sont extrêmement favorables, l'ont lu, ont voulu échanger avec nous, on a mené beaucoup d'échanges. Donc, en France, peut-être qu'il y a un discours public verrouillé par quelques personnes, peut-être quelques lobbies, notamment dans le marché de l'art, qui sont moins forts dans d'autres pays, et dans d'autres pays, comme en Allemagne, aux Pays-Bas, c'est le cas aussi. En Belgique, c'est en train de bouger. Le directeur du musée de Tervuren, de l'ancien musée du Congo, est très ouvert au dialogue. Il est allé à la rencontre de Felwine à Dakar. Il est venu à ma rencontre à Berlin. Donc là, ça bouge aussi. En France, bon. Mais c'est souvent comme ça en France. C'est pas grave. Si les boules de billard bougent ailleurs, à la fin, bah, ça va finir par toucher aussi ici.
Mais comment est-ce qu'on peut expliquer la volte-face du directeur du musée du Quai Branly ?
Ah, moi, j'ai pas d'explication pour les volte-face. Je connais pas, j'ai jamais prouvé ça moi-même. Je comprends pas, c'est des questions d'opportunisme.
Oui, Patrick Deville, pour l'enregistrement, c'est important. Là, effectivement, un peu pour des raisons personnelles, vous introduisez Berlin beaucoup dans ce... Mais en fait, il n'y a aucune dimension européenne à ce projet, pour l'instant. C'est un projet français qui a des répercussions à Berlin. Vous ne parlez pas de la Grande-Bretagne, où c'est également tout de même un projet engagé aussi depuis très très longtemps avec des débats.
Oui.
Mais pour l'instant, il n'y a pas de décision européenne.
En fait... Une des revendications des personnes opposées aux restitutions ou très sceptiques, c'était de dire il ne faut pas qu'un pays fasse cavalier seul, et il faut régler ça à l'échelle européenne. Simplement, on sait par expérience que régler ça à l'échelle européenne ou l'appel à un règlement transnational ou international, c'est une manière de bloquer les choses et de ne pas les faire avancer. Et nous, on a, dans le cadre de nos travaux, on a découvert, il faut vraiment insister sur le terme de découverte, qu'en fait, tout le débat qui est mené aujourd'hui, alors il est peu mené en France, mais qui est mené ailleurs dans le monde, a déjà eu lieu entre 1978-79 et 82 à peu près. À ce moment-là, sous la houlette de l'UNESCO, qui était très engagée, de Amadou Maktar Mbo, directeur général, qui est sénégalais, directeur général de l'UNESCO, tout ce discours avait été mené et on a retrouvé dans les archives du musée du Quai Branly et dans d'autres archives de musées avec Felwine des formulaires de restitution trilingues, déjà tout fait, tout imprimé, avec 6 volets, il n'y avait plus qu'à remplir. On en était déjà là au niveau international. En France, une mission avait été confiée à Pierre Cognam, qui était un ancien directeur général du Louvre et émérite, et qui était inspecteur des Beaux-Arts à l'époque, donc quelqu'un de très honorable, vous voyez, pas un trotskiste avec un couteau entre les dents, qui avait mené exactement le même travail que le nôtre et qui était arrivé à la conclusion, après avoir consulté des experts, des professeurs de la Sorbonne, etc., que la restitution, qu'il fallait être favorable aux restitutions, qu'elles étaient un acte de solidarité et d'équité, c'est sa formule. En Allemagne, c'est avant l'arrivée d'Helmut Kohl, le gouvernement des libéraux annonce en 82 des restitutions pour l'année 84 pour fêter les 100 ans de la conférence de Berlin, ou pour en tout cas pour marquer ce centenaire. Donc en fait, le débat était déjà beaucoup plus avancé autrefois, et il était avancé à l'échelle internationale avec la force de l'UNESCO, sans que l'Europe ou l'Union européenne se soit impliquée. Et voilà. Et donc, comme vous le dites, il n'y a pas de décision à l'échelle européenne, mais cette affaire-là, les musées européens, les musées dits universels et leur manière de s'être approprié les patrimoines des autres, c'est une affaire, évidemment, une affaire de famille européenne. Les Anglais sont empêtrés dans leur Brexit, mais on voit bien que autant le British Museum se crispe sur son idée d'universalisme, de collection accessible à tous, etc., sur ce discours, cette rhétorique qui ne marche plus, mais autant, par exemple, Pitt Rivers à Oxford, qui est un musée universitaire, donc peut-être un peu plus souple, est en train de faire des pas de géant. En ce moment, ils ont une exposition organisée par Dan Hicks sur la jungle de Calais. Vous voyez, donc, on imagine le musée d'ethnologie d'Oxford avec une exposition sur la jungle de Calais, ça veut dire quelque chose. Donc, pareil, en Grande-Bretagne, ça va peut-être se bouger plutôt à Liverpool, à Manchester, à Oxford et en tout dernier au British Museum, de même que peut-être à l'échelle européenne, ça va bouger en Allemagne. L'Allemagne a restitué dans les semaines qui viennent de passer trois objets très symboliques, très importants à la Namibie, qui étaient réclamés depuis longtemps. Donc, voilà. Et pour ce qui concerne la France, on avait avant-hier, au Collège de France, avec Philwin, on a organisé une journée d'études qui s'appelait Muséotopia sur l'avenir des musées en Afrique. Et les collègues du Bénin, l'ambassadeur le directeur des affaires culturelles de l'ambassade du Bénin en France, etc., étaient là, étaient présents et nous disent que ça avance de leur point de vue. Donc voilà, nous deux, Philwin et moi, on n'est pas au courant exactement, mais on est loin. Mais les choses avancent à un rythme qui n'est pas assez rapide de notre point de vue, mais voilà. Et ça va pas, pour reprendre ta question, Antoine, est-ce que ça va finir dans un tiroir? On a eu cette inquiétude à un moment du travail, et c'est pour ça qu'on a choisi de le publier. De le publier en français, en anglais, et là, la traduction allemande vient de paraître. Donc, il n'est pas dans un tiroir, là. Il est online, gratuit en plus.
Oui. Philippe Papin. Merci d'abord pour cette très intéressante présentation. J'ai une petite question qui prolonge immédiatement la précédente et qui est d'ordre politique ou même plus précisément juridique. Nous avons parlé jusque-là des restitutions entre, en gros, l'Europe et l'Afrique. On sait très bien que la même question se pose à l'intérieur du bloc européen et puis aussi aux États-Unis. Songez au musée de New York pour savoir d'où vient la peinture qui est dedans, les peintures qui sont dedans. Ma question est donc la suivante. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une résolution du problème africain ou des restitutions en Afrique sans pour autant penser à une loi générale? Autrement dit, est-ce qu'on peut penser à un cas particulier africain ou bien est-ce qu'il faudra attendre que la question des restitutions soit traitée juridiquement à la même aune pour tout le monde?
Oui, c'est une excellente question. C'est fait dans le cadre du travail. Nous avons eu le précieux conseil de deux juristes, de Vincent Negri, qui est spécialiste des codes du patrimoine africain comparé et voilà, d'une part, et d'Isabelle Maréchal du ministère de la Culture qui, donc, dans le cadre de plusieurs ateliers juridiques, ont essayé de répondre à cette question. Dans le cadre de ces ateliers, on avait invité des collègues italiens qui, à la fois, avaient organisé, des avocats notamment, qui avaient organisé des récupérations des États-Unis, du Getty notamment, de choses qui étaient retournées en Italie, et les mêmes avaient organisé aussi le retour notamment de l'obélisque d'Aksum en Éthiopie. Donc ils nous ont expliqué comment ils s'y étaient pris eux. Pour ce qui nous concerne, pour le moment, la préconisation des juristes, et ce qu'on a proposé dans le rapport, c'est un aménagement du code du patrimoine existant en faisant valoir le fait qu'il y avait une sorte d'exception africaine de l'Afrique au sud du Sahara à cause de ce tout d'un côté et presque rien de l'autre. C'est fragile. C'est certainement fragile, mais disons la philosophie de notre rapport, si on veut, certains nous ont fait le reproche d'être populistes ou d'être des nationalistes et de vouloir rendre l'art africain à l'Afrique, l'art italien à l'Italie, etc. C'est évidemment pas de ça qu'il est question. Il s'agit, pour reprendre le terme de Philwin, d'une nouvelle éthique relationnelle, de rééquilibrer un déséquilibre criant. Quand on va en Italie, on peut voir de l'art italien. Quand on va en Égypte, le musée d'art égyptien du Caire est le plus beau musée égyptien du monde, etc. Donc, après, le fait qu'il y ait des revendications patrimoniales qui sont instrumentalisées dans des contextes politiques donnés, c'est autre chose. Mais dans le cas africain, disons qu'on a, en tout cas nous, on a essayé d'argumenter avec les autres, en fait. Hein, l'argument était déjà là, avec cette exception. Et voilà, la préconisation, c'est d'aménager le premier article du Code du patrimoine. Je ne suis pas tout à fait à l'aise, pour ce qui me concerne, pour parler de ces aspects juridiques-là. Ils sont bien décrits dans le rapport, mais c'est vrai que comme ce n'est pas exactement mon domaine, j'ai du mal à aller plus loin dans l'explication. Mais il faudrait aménager. Jusqu'à maintenant, la possibilité qu'il y aurait eu pour restituer, il existe un mécanisme qui est de décréter que les objets qu'on veut rendre n'ont plus de valeur pour les collections nationales françaises. De dire, voilà, telle tasse ou tel type d'objet ne nous intéresse plus, on les rend. Mais évidemment, nous, on ne voulait pas du tout utiliser cet outil-là, parce que ça voudrait dire, on vous rend ce qui ne nous intéresse pas. Ce n'est pas du tout ça. Au contraire, on rend le plus intéressant. Et c'est pour ça qu'il faut aménager ce code et pas utiliser les... Et donc, il faudra légiférer.
Alors, bonjour Pierre Saint-Garavelou, merci beaucoup Bénédicte pour cette présentation très vraiment passionnante. J'ai constaté, comme toi, en fait, la réticence de certains présidents, certaines présidentes de musées en France, et en même temps l'adhésion des plus jeunes, conservateurs et conservatrices de musées qui commencent à s'organiser, comme tu le sais, en France, à travers un réseau notamment qui a été poussé, alors c'est pour ça que ça renvoie à ta présentation, encouragé par l'Institut Goethe. C'est un réseau qui travaille sur les origines coloniales des collections. Et donc, il y a eu récemment une grande réunion au Musée d'Aquitaine qui réunissait toute une série de conservateurs et des différents musées nationaux français. Et donc, plus largement, moi, ce qui m'a intéressé dans ta présentation, c'est qu'elle elle pose d'emblée la question de la diversité des situations coloniales et postcoloniales et la grande diversité des imaginaires coloniaux, puisque c'est le sujet qui nous réunit. Et en t'écoutant, je me suis posé la question de la commensurabilité. C'est-à-dire que si on reprend l'exemple que tu donnes de ces 300 Africains mobilisés, contraints de participer à ce film, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au même moment à d'autres, à des dizaines d'autres basanés, si je puis dire, des Indiens qui sont au même moment à Berlin et qui rejoignent à partir de 1942 l'Indische Legion, la légion indienne de la Wehrmacht, qui sera ensuite récupérée par la Waffen-SS à la toute fin de la guerre, qui sont des dizaines d'étudiants qui étaient indiens, parfois très sombres de peau, des Tamouls, présents à Berlin, et qui sont recrutés par Sudhas Chandra Bose, qui est un des grands pères de l'indépendance indienne, un des plus grands freedom fighters, qui se rend en 1942 à Berlin pour convaincre Himmler et Berlin de fonder cette légion qui doit libérer l'Inde des Britanniques. Et Hitler accepte. Alors, il va jamais la faire combattre, il va la localiser à Poitiers, à Lacanau, dans les Landes, puis dans les Pays-Bas, etc. Au point que Bose va quitter l'Europe pour se tourner vers les Japonais, qui vont lui offrir plus de moyens. Et il va commencer à reconquérir l'Inde en s'arrêtant dans les îles d'Andaman et Nicobar. Mais ça m'a fait penser, ça pose la question de cette différence de représentation, y compris dans ce moment de paroxystique du racisme nazi, entre l'Indien et l'Africain, si on doit un petit peu comme ça essentialiser ces identités. Et je me posais de la même façon la différence de perception concernant la restitution, et tu as répondu à la question de Philippe Papin en partie, entre Asie et Afrique. De la même façon, moi, c'était mon premier travail de recherche sur l'histoire de l'école française d'Extrême-Orient il y a bien longtemps, et j'avais découvert que les savants français avaient, tu parlais de violence épistémique et de violence scientifique, avaient vendu de nombreuses, alors petites sculptures à des touristes américains, à des musées dans le monde entier dans les années 1930, précisément pour financer la conservation d'encore. On parle là d'archéologues officiels de l'État français qui étaient censés conserver et qui l'ont fait. Ils ont conservé avec une grande efficacité, mais ils ont aussi vendu. Je me demandais en t'écoutant, voilà, mais si tu as, encore une fois, tu as donné quelques éléments, comment toi tu appréhendais cette question-là pour l'Asie, et si ce rapport avait suscité, tu nous as bien parlé des réactions en Afrique et en Europe, mais des réactions en Asie, on sait combien c'est compliqué. Alors il y a eu des restitutions des biens qui ont été prélevés à l'occasion du sac du palais d'été en 1860, pour des raisons économiques et stratégiques bien connues. Il y a eu les restitutions aussi en Corée pour des raisons aussi économiques au moment de la présidence Mitterrand et d'Alstom, des marchés sur place. Bon, mis à part ces exceptions-là, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de possibles restitutions à des États asiatiques qui sont autrement plus puissants dans le rapport de force et dans les négociations, mais qui s'intéressent aussi peut-être un peu moins aussi à cette question-là?
Merci beaucoup. D'abord pour l'information sur cette mission, cette légion indienne dont j'ignorais complètement l'existence. Peut-être le fait qu'elle soit à Lacanau et qu'elle soit pas sur les territoires allemands irait dans le même sens que cette histoire selon laquelle Hitler ne voulait pas de personnes de peau noire sur le territoire. Bon, mais donc il y a des liens, et puis l'autre lien évidemment, c'est la haine des Britanniques. C'est l'ennemi, c'est presque plus l'ennemi que le français. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, et merci d'avoir attiré mon attention là-dessus. Ça doit pouvoir se penser ensemble. Sur l'Asie, je peux faire que des réponses qui tournent autour du sujet. Je vais faire deux tours. Donc vous verrez, je réponds pas. Mais la première, je voudrais répondre par l'Algérie, qui est moins loin que l'Asie. et par l'Égypte. Quand on a remis ce rapport, donc, qui concerne seulement l'Afrique au sud du Sahara, on nous a dit tout de suite, oui, mais alors l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, il y a des collections considérables aussi. Pourquoi vous n'en avez pas tenu compte? Et notre réponse, ça a été, parce que la mission concernait l'Afrique au sud du Sahara, d'une part, et d'autre part, parce que c'est des situations coloniales différentes. Il y a eu des restitutions. Et donc, notre réponse a toujours été, il faudrait qu'il y ait une mission spéciale là-dessus. De même qu'il faudrait qu'il y ait une mission spéciale sur la question des archives, évidemment. Donc, on ne dit pas qu'il ne faut pas le faire, mais pour nous, en tout cas, c'était trop. Donc ça, c'était ma première réponse d'un côté du pot. Et l'autre réponse sur l'Asie, elle est double. Et elle concerne seulement la Chine pour le moment. C'est ce que je peux simplement dire et ce qu'on a observé. Il y a eu un film en 2012 de Jackie Chan qui s'appelle le Chinese Zodiac 12, donc le Zodiac chinois 12. En 2012, qui est basé sur l'histoire justement de la restitution ou en tout cas de la vente des pièces spoliées lors du pillage du palais d'été en 1861 pendant la guerre de l'opium, qui était, comme vous le savez, dans les collections d'Yves Saint-Laurent, qui ont été mises aux enchères, etc. Et Jackie Chan a tourné un film dont on n'a pratiquement pas entendu parler ici en Europe, où lui-même, avec ses arts martiaux et ses muscles, va récupérer ses pièces à Paris. Et c'est un des films qui a fait les plus grands chiffres au box-office. Donc un élément de réponse, c'est qu'en tout cas en Chine, ce sujet-là est extrêmement présent dans la pop culture. De même que maintenant avec Black Panther, il est aussi présent, etc. En tout cas, on n'a pas attendu les directeurs de musées, les intellectuels, les universitaires comme nous. Le sujet est là, d'une part. Et d'autre part, il est là, mais il semble être associé, et là, vraiment, je le dis de très loin, hein, ce n'est pas du tout mon sujet, mais il semble être associé à la propagande d'État, et donc chinoise, avec ce nationalisme du rapatriement propagé par les Chinois, avec comme effet que des dissidents comme Ai Weiwei, l'artiste Ai Weiwei, a proclamé plusieurs fois qu'il ne fallait surtout pas restituer d'objets spoliés à la Chine, puisque l'art était fait pour circuler et que de toute façon, les autorités chinoises, quand elles demandent des restitutions, le font que pour divertir des vrais sujets importants chinois. Donc quand vous vous adressez à des étudiants chinois, par exemple à Berlin, ou à des collègues qui sont parfois des dissidents, ils vous disent « Ah non, non, mais il ne faut surtout pas rendre à la Chine, c'est très bien là où c'est, etc. » Donc on voit bien que chaque contexte local... voilà, ça c'est un élément de la réponse sur la Chine. L'autre élément, c'est un article que j'ai lu récemment dans la, je crois, Süddeutsche Zeitung, qui prétendait qu'on avait observé qu'il y avait de plus en plus de vols dans les musées d'art chinois en ce moment, par effraction, celui de Fontainebleau, et voilà. Et donc il y aurait une sorte d'idée de, après avoir réacheté beaucoup sur le marché de l'art, maintenant les Chinois envoient tout simplement des voleurs, enfin ils vont récupérer les choses manu militari. Je pense que pour tout ce qui concerne le Vietnam, le Cambodge, etc., le sujet est là, il est très présent. Ces pièces, pour ce qui concerne la France, ne sont plutôt pas au musée du Quai Branly, mais plutôt dans d'autres types de musées. Ça va se poser. En Allemagne, ça se pose déjà beaucoup avec la Chine. Mais voilà. Et des pièces, pour ce qui concerne l'Allemagne, qui ont été prises soit pendant des boxers, Boxeraufstand, l'émeute, ou le pillage du palais d'été, et donc que les Allemands soit avaient pris directement en 1901, soit ont acheté sur le marché de l'art. Voilà. Bon, c'est pas de bonnes réponses, mais je pense que le sujet va. Vous le savez mieux, en fait, vous, sans doute, comment est l'état de l'opinion là-dessus.
D'autres questions? Oui.
Deux choses, puisqu'on demande la question du lien, par exemple, avec les autres que le monde subsaharien. En France, je voulais juste rappeler que souvent, ces questions sont liées aussi aux relations géopolitiques et historiques du moment et que, indépendamment de pays non liés directement comme la Chine, il y a eu beaucoup d'emphase mise sur la question de la Nouvelle-Calédonie. Donc nous sommes là loin de l'Afrique subsaharienne et sur un sujet qui était un peu différent puisqu'il s'agissait là de relations avec des restes humains et non pas des œuvres ou des statues ou des masques. Et que ça a été une chose très médiatisée que dans le cadre de la reconnaissance des cultures kanak depuis les accords de Nouméa et autres, en plus du musée de la Jean-Marie Thibaut qui a été fait, il y avait l'idée aussi de restitution. Donc on voit que l'idée de restitution est souvent liée aussi à l'idée de rééquilibrage des relations humaines, politiques et autres, et que ça consistait à faire quelque chose où il y a eu des controverses d'ailleurs, en disant mais il s'agissait de rendre des têtes de chefs, et que ça avait, dit-on, une grande signification symbolique là-bas, beaucoup plus qu'une statue, et qu'en même temps, s'est posée toute la question, mais qu'est-ce qui s'était passé? Qui avait coupé ses têtes? Est-ce que c'était des conflits internes? Enfin, je veux dire que le sujet est venu très fortement avant la question, justement, de votre rapport et de tout cela, et ça nous permet de bien comprendre que ce n'est pas simplement une question liée à l'Afrique, mais lié aux relations finalement qu'on veut établir avec telle ou telle région, et que ça s'est passé eh bien, très loin dans le Pacifique et en Asie avec la Nouvelle-Calédonie. L'autre remarque que je voulais faire, c'est à propos de cette question de la manière de considérer l'autre, qui est beaucoup plus complexe que souvent ce qu'on voit. Le nazisme, évidemment, c'était le mépris absolu, notamment de ce qu'ils appelaient le judéo-nègre, en l'associant même, pour ce qui concernait la musique et le jazz, qui faisait la synthèse des pires horreurs, c'est-à-dire à la fois les nègres d'Amérique avec le jazz et le monde juif. Donc, c'était la chose à abattre. Donc, on a vu aussi les horreurs qui ont été faites lorsqu'il y a eu l'invasion de la France et la vengeance très particulière par des régiments SS vis-à-vis des tirailleurs dits sénégalais, c'est-à-dire des régiments noirs en France qui, au moment de se rendre, n'étaient pas faits prisonniers, mais ont été, dans une grande proportion, exterminés. On a des exemples à Lyon, à Tours, des endroits comme ça, où il y a eu des meurtres de prisonniers directement. Ce sont des choses qu'on a peu sues, mais qui manifestait cette espèce de hargne contre justement le fait que la France avait envoyé des régiments noirs occuper la Roue, et ça avait été pris par certains en Allemagne comme le comble du mépris d'envoyer des sauvages occuper l'Allemagne, et avec cette terrible vengeance. Alors ça, c'est une réalité purement historique, purement de relations, de violence et tout ça. Et en même temps, par rapport à cette question de film, pour pouvoir dire, regardez tout ce que l'Allemagne a bien fait, et avec cet argument, ce sont les Anglais et les Français qui sont les grands colonisateurs de la France, de l'Afrique, et nous, les Allemands, nous n'allons pas faire la même chose. Et je voulais faire cette remarque au même moment, c'est-à-dire au moment où sans doute... quand ils recrutent ces personnes, peut-être, vous disiez, à Paris ou ailleurs, en tout cas en Europe, et non pas là-bas en Afrique, c'est le moment où les étudiants africains qui se trouvaient à Paris dans leurs études ont été, entre guillemets, soignés par les occupants de façon à mettre en place une politique pour l'avenir, une fois que le nazisme aura gagné, où l'Afrique, les Africains, se mettraient contre l'Angleterre et contre la France en tant que colonisés. On voit bien que là, c'est de la politique, de la géopolitique, et qui n'a rien à voir avec des choses raciales, puisque ça a été même à Paris, à soutenir ce qu'ils appellent le club colonial, où ces étudiants africains, parmi lesquels on est en 41, 42, etc., c'est-à-dire les élites de la décolonisation qui faisaient leurs études à l'école coloniale au Luxembourg ou bien l'école vétérinaire, les gens qui sont les Birago Diop, tout un tas de... C'est au premier rang desquels, d'ailleurs, il y a Senghor qui, lui, était un peu plus âgé, était prisonnier, mais a failli mourir sur un peloton d'exécution par un régiment SS, une chose qu'on sait peu qui était dit dans sa biographie, qui a été sauvé au dernier moment, ils étaient déjà alignés, par l'officier français qui disait: les lois de la guerre, ce sont des prisonniers, vous n'avez pas le droit de fusiller. Mais enfin, tous ces gens-là, revenus et présents à Paris, étaient là dans leurs études et étaient, si je puis dire, au Quartier Latin, non discriminés supplémentairement par rapport à ceux qui auraient été des Blancs. Alors qu'on aurait pu imaginer qu'au contraire, on allait faire la chasse aux nègres, la chasse à, comme on faisait la chasse à ceux qui, dans les boîtes, jouaient du jazz ou des choses de ce genre-là, la musique interdite. Et c'est intéressant parce que, en fait, beaucoup d'entre eux étaient dans la résistance. Le plus connu, c'est justement Alioune Diop. Alioune Diop a pensé la réorganisation des Africains entre eux pour une future libération une fois la guerre gagnée, pendant cette époque-là, au club colonial, où il a pensé à présence africaine. Et c'est curieux, quand on regarde cette époque, de se rendre compte qu'il n'était pas en danger de se réunir dans ce club colonial où les Allemands fournissaient du café, des produits qui leur permettaient d'avoir une bonne, un bon environnement pour leurs débats ou les choses de ce genre-là. Donc, ça rejoint cette question du film, de la propagande, de l'utilisation, justement, des images, de l'imaginaire, de choses de ce genre, pour un but, mais qui n'a rien d'imaginaire, qui est en fait la réalité des relations géopolitiques, y compris à venir, et qui explique que parfois, eh bien, le faux racisme, qui est en fait une non-réalité, quand il est judéo-nègre, la musique, c'est purement un choix qui ne correspond pas à une réalité dans la mesure où pratiquement toute la jeunesse allemande dansait cette musique. Il a fallu un décret de Goebbels contre les Allemands pour qu'ils n'aillent pas écouter ces musiques. Donc c'est bien que nous devons faire chaque fois une différence entre les volontés, par exemple, politiques ou de pouvoir de faire des choses et la réalité de ce qui se passe dans la tête des gens qui n'étaient sûrement pas là. La musique de jazz judéo-nègre était la musique la plus développée dans toute l'Europe à ce moment-là et même Goebbels n'a pas pu empêcher qu'à Berlin, Francfort ou tout ça, le soir, les jeunes des jeunesses allemandes qui se promenaient dans la journée allaient le soir danser. Il a fallu des décrets pour les empêcher. Donc, ça va dans les deux sens. L'imaginaire du petit Allemand à qui on dit qu'il ne faut pas qu'il écoute, et son imaginaire n'est pas à ce degré-là, et aussi la réalité géopolitique qui fait que ceux-là même qui font des actes de cette violence, par exemple, de se venger contre les régiments de tirailleurs, sont en même temps ceux qui disent, de manière géopolitique, il va falloir qu'on s'accorde, qu'on protège, qu'on négocie avec ces jeunes élites africaines qui sont là, justement à Paris, à portée de main, pour qu'ils soient ceux qui, avec nous, Allemagne, vainqueur du monde, construisons un monde dans lequel on aura chassé les Anglais et les Français, les colonisateurs, pour construire un nouveau monde. De même qu'ils voulaient construire une nouvelle Europe sous la direction de l'Allemagne nazie. Donc c'est complexe parce qu'on se rend bien compte comment l'imaginaire est une réalité, mais une réalité individuelle de chacun, et une réalité qui ne se manipule pas forcément par le pouvoir politique qui voudrait bien le faire, mais qui n'est pas le maître absolu de ce qui se passe dans le cœur des gens, et surtout dans la culture et dans l'art, et même aussi dans les réflexions politiques, quand on pense que c'est dans ce club colonial que se sont faits les débats en 41, 42, 43, 44 et 45, qui ont donné ensuite les présences africaines, les grands débats sur, c'est-à-dire la naissance de la génération de la décolonisation.
Je vous remercie beaucoup. J'aimerais rebondir juste rapidement sur deux éléments. Sur la première partie, quand vous disiez que la restitution, c'est pas simplement remettre des objets en place, mais qu'il y a évidemment toute une dimension symbolique, une portée balistique bien plus importante. Ça, c'est extrêmement important. C'est aussi pour ça qu'on a le sous-titre du rapport dans sa version, dans la version qu'on a remise, c'est vers une nouvelle éthique relationnelle. Donc vraiment, l'idée, c'est de remettre à plat, de reparler, comme vous le disiez, à propos des restes humains. C'est à partir du moment où ces objets, où les Européens risquent de les perdre, qu'ils se mettent à en parler, qu'ils se mettent à comprendre qu'ils ont ça, en quelque sorte, ou que nous avons ça, ce type d'objets dans nos musées, et le fait de les rendre ou d'annoncer leur restitution, ou d'annoncer, c'est une forme de réparation ou de catharsis. On en reparle, on les refait partir, mais on ne les fait pas repartir. Ce n'est pas le retour du même, c'est le retour du même différent. Et avec vraiment cet espoir, en effet, d'un nouveau rapport avec les personnes. Ce que vous disiez sur la situation des étudiants africains sous l'occupation à Paris me paraît passionnant. Pour moi, qui ne suis pas alors, spécialiste d'histoire militaire, où je commence à lire maintenant, mais en vous écoutant, je me demandais si ces jeunes gens-là qu'on voit ici, est-ce que leur parcours, est-ce que ça peut être des étudiants, en fait ? Ces jeunes, est-ce que ça peut être des étudiants parisiens de cette génération ou est-ce que, enfin, je m'adresse à vous parce que vous le savez peut-être, enfin, ou sans doute mieux que moi, ou est-ce que ces régiments-là étaient recrutés directement sur place, plutôt au Sénégal, au Soudan, enfin, ce qu'on appelait le Soudan, etc. Je me demande, parce que si en effet ces jeunes gens-là étaient 2 ans avant à la Sorbonne, enfin, ça raconte encore une autre histoire. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'en trouvant les fiches, quand on trouvera leurs fiches de prisonniers, qu'on verra qu'ils sont étudiants en philosophie, étudiants en germanistique ou en biologie, ça donnera encore toute une autre dimension. Et merci pour votre rappel ou à être prudent, en effet, avec toutes ces différentes facettes d'un objet qui, à la fois... J'aime plus du tout utiliser le terme complexe maintenant. Enfin, avant, c'est un terme qu'on utilise volontiers et souvent. Maintenant... Après les discussions qu'on a menées sur le rapport et sur la restitution, où on a toujours entendu, ou très souvent entendu, oulala, c'est des questions complexes, ou c'est plus complexe que vous pensez, moi, j'ai vraiment tendance à plus du tout utiliser ce terme-là, parce que dire que c'est complexe, c'est aussi empêcher de penser des choses qui, oui, peut-être qu'elles sont compliquées, mais il faut quand même les penser jusqu'au bout. Et pour ce qui concerne la restitution de ces biens mal acquis, en quelque sorte, ça ne me paraît pas très complexe. Donc là, j'allais dire, merci de nous rappeler que ces facettes, qu'il y a vraiment une multipolarité, un très grand nombre de facettes à prendre en compte et que, évidemment, pour nous, historiennes et historiens, quand on arrive déjà à modéliser 2 ou 3 ou 4 facettes en même temps, on est content et que là, enfin, on voit bien que ce que vous dites là, ça exige un travail collectif qui existe déjà, autour d'historiens et d'historiennes qui travaillent sur ces questions, mais qui peut-être intensifié, en particulier en Europe, en faisant des tandems, voilà, entre l'Allemagne et la France, par exemple. En Allemagne, là, c'est la redécouverte par les Allemands de leur période coloniale, c'est à peu près aussi fort et aussi puissant que le travail sur la période nazie et la Shoah. C'est vraiment quelque chose qui est monté et ça mériterait, je pense, de travailler plus ensemble sur ces questions, maintenant.
En tout cas, merci beaucoup pour cette... Hemley Boom. Merci beaucoup pour cet exposé. J'ai lu le livre avec beaucoup d'attention et je vous ai écouté aussi plusieurs fois, dont des vidéos que vous aviez faites, notamment celle où vous disiez qu'il y a déjà 30 ans, plus de 30 ans en arrière, les choses avaient pas mal avancé en Europe sur les questions de restitution pour ensuite disparaître dans les diverses urgences qui se sont posées par la suite. Manifestement, Emmanuel Macron a levé un lièvre. Je ne suis pas certaine qu'il avait lui-même la mesure de ce qu'il a déclenché. Et le fait que vous soyez tout de suite affranchi de vos commanditaires, d'une certaine manière, c'est vrai que ça interroge et peut-être que ça aussi, ça peut rendre suspect, entre guillemets, votre travail. Cela expliquerait aussi peut-être je suis tout à fait dans des spéculations parce que j'essaie de comprendre la réaction du directeur du musée du Quai Branly, parce que je pense qu'il y a de l'oubli et que quelque part, bien qu'étant directeur de ce musée, il n'avait peut-être pas l'ampleur de ce qu'il faudrait restituer s'il fallait restituer et de ce que cela générerait par la suite, parce que ce qui se dit ici, c'est que des restitutions, il y en a eu de toutes sortes, dans tous les sens, la plus emblématique étant peut-être la restitution après la guerre des objets d'art, etc., spoliés aux Juifs par les nazis, et puis d'autres restitutions dans d'autres pays du monde. Est-ce que toutes ces restitutions ont donné lieu à des changements législatifs et juridiques ? Ça, c'est ma première question. Et je voulais revenir sur la reprise de cette idée dans le Pop Art. Vous avez parlé de Black Panther. Aussi, Wole Soyinka, dans ses mémoires, raconte une... une expédition organisée dans un musée anglais dans lequel ils avaient reconnu une déesse Orisha, donc une déesse de chez lui, qui avait été donc spoliée pendant la période coloniale. Ça existe depuis longtemps, en fait, notamment dans la littérature anglophone. Et je voudrais parler également du très beau livre de Yag Yassi, une romancière ghanéenne qui s'appelle No Home, où elle parle du sac du royaume Ashanti et de la manière dont ça a désorganisé en fait tout ce qui est connu comme le Ghana actuel et qui était le royaume Ashanti de cette époque-là. Ma première question était sur les restitutions et la deuxième question c'était sur la question des réparations, parce que ces objets sont dans des musées, les musées sont payants, il y a une économie qui s'est mise en place depuis des décennies finalement. Est-ce que votre travail porte aussi sur une éventuelle réparation, pas seulement restitution mais aussi réparation, et quelle forme éventuellement elle pourrait prendre?
Je vous remercie beaucoup aussi pour ces indications, pour ces pistes littéraires. En effet, dans le monde anglophone, au Nigeria, donc on a le grand poète national nigérian a écrit plusieurs poèmes sur ces questions-là. Et, dès les années 70, il y a eu des films importants dans le cadre du Festac au Nigeria notamment. Le Ghana est très, très en avance aussi. Mais on observe en effet que le sujet, et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit modeste aussi, nous les qui arrivons là, en fait, tard. On a cru avec Félouine, quand on a commencé, on a cru qu'on était premier à traiter de ces questions, mais non, pas du tout. Il y a vraiment un terrain très fort et c'est très frappant de voir à quel point on ignore comment depuis les années 60 certains pays, tous les ans, tout le temps, ont demandé avec beaucoup d'insistance. Donc en effet, dans la pop culture, bon, Black Panther, le Jackie Chan aussi, on trouve des chorégraphies, des artistes qui font des chorégraphies dans les musées, la Documenta, la fameuse foire d'art contemporain en Allemagne tous les 4 ans a été consacrée l'année dernière uniquement à la question des réparations, donc des biens juifs ou restitutions et des biens pris dans la période coloniale. Donc en effet, c'est extrêmement présent et ça devient de plus en plus, sans compter les films documentaires, etc. Et en fait, à vrai dire, c'est presque nous qui sommes derrière, nous les historiens, où on souffle derrière alors que le sujet est très présent. Pour les juridictions, pour les restes humains, en tout cas pour ce qui concerne la France, le retour des têtes maories et de Cynthia Barman, dite la Vénus hottentote, là, il y a eu des juridictions à part, spéciales. Et il semble que dans l'ensemble de l'Europe, la restitution des restes humains est devenue un consensus. Ça se fait maintenant. On ne discute plus pour ça. Pour les biens spoliés aux familles juives, c'est sur une base de loi soft law, depuis les principes de Washington de 1998. Et là, d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est une parenthèse, mais on voit comment... vous savez, un des obstacles à la restitution, c'est souvent de dire on ne sait pas à qui rendre. On ne sait pas à qui rendre. Donc, comme on ne sait pas à qui rendre, on ne rend pas. Et c'est intéressant de voir que dans les années 90, par exemple, quand Helmut Kohl a retrouvé 30 tableaux qui avaient été pris sous l'occupation en France, probablement à des familles juives qui avaient été transportées, Helmut Kohl les a rendus à l'époque à Mitterrand, qui lui ne les a pas rendus aux familles juives. Et maintenant, les Allemands restituent directement aux familles. Vous voyez ? Donc là aussi, ça évolue. Et pour ce qui nous concerne, on nous a expliqué que juridiquement, une demande de restitution n'était recevable que si elle venait d'un État souverain. Mais on sait bien que c'est bien parfois, quand ça vient de, par exemple, de villages ou de communautés, ça appartenait à des familles. Souvent, c'est des familles gardiennes. Donc il faudrait les rendre à ces familles gardiennes, à vrai dire, etc. Mais tout ça a déjà été joué. Tous ces jeux ont déjà été joués, sauf que pour ce qui concerne le continent africain, on fait semblant de croire que c'est impossible et qu'il n'y a pas de solution. Donc il y a vraiment des parallèles, et je pense que la raison pour laquelle l'Allemagne est aussi là en ce moment en avance, c'est qu'ils ont déjà expérimenté, d'abord, combien on devient une société plus forte quand on travaille sur son passé de manière active, comme ils l'ont fait sur la période nazie. Donc là, ils ont les outils, et d'autre part, ils savent très bien qu'on ne peut pas résister à ces demandes de justice patrimoniale, en fait. Ça finira par changer. Donc, soit on résiste, soit on accompagne, soit même on est proactif. Et je crois qu'eux, ils se sont engagés dans la voie du proactif. J'ai oublié votre seconde sur la question de la réparation. Elle revient un petit peu à votre question aussi. En quoi la restitution, est-ce que c'est seulement une restitution sèche, en quelque sorte, je te rends ce masque, voilà, ou qu'est-ce qu'il y a avec? pour ce qui concerne l'aspect économique, on a entendu dire parfois, alors c'est quelque chose que j'entends souvent à Berlin. Vous savez, à Berlin, il y a le plus grand dinosaure du monde qui est dans le Guinness Book des Records, qui a été pris en Tanzanie. Enfin, c'est différents éléments qui ont été pris par les Allemands en Tanzanie quand la Tanzanie était une colonie allemande, et ils les ont reconstitués comme un puzzle, et c'est devenu le plus grand dinosaure à Berlin. Et souvent, on entend des collègues de Tanzanie qui disent « Non, mais on ne veut pas spécialement récupérer le dinosaure, mais on veut des tantièmes sur les tickets, en fait, sur les tickets d'entrée, parce que c'est une attraction considérable. » Donc ça, on l'entend. Et on entend aussi, quand on a des discussions un peu approfondies, un peu philosophiques, quelque chose du genre « Non, mais nous en Afrique, on veut pas monnayer ça. C'est notre patrimoine. C'est incommensurable. Et donc, on ne peut pas le réparer avec de l'argent. On peut le réparer en rendant, en reconnaissant, en disant comment les choses se sont passées. Et c'est ça, la réparation, en quelque sorte. C'est-à-dire Hier, on a beaucoup échangé avec Kader Attia, l'artiste contemporain, dont c'est le sujet, la réparation. Et lui, il insiste toujours beaucoup sur cet exemple de ces porcelaines asiatiques qui, quand elles sont brisées, on les répare avec une suture en or. Enfin, on rend la suture visible. Et quand on discute des restitutions, on dit toujours qu'on essaye. Enfin, la discussion va dans le sens de rendre la chose en lui rajoutant ce filet d'or qui montre sa blessure, mais qui lui donne plus de valeur encore, puisqu'on est dans un geste de nouvelle éthique, etc. Donc la réparation, elle serait moins monétaire, même si tout l'aspect monétaire joue un rôle considérable qu'on évoque trop peu. J'évoquais là les 10 francs, mais on pourrait continuer beaucoup. La loi qui a promulgué la mission Dakar Djibouti dit dans le texte de loi, si on ne fait pas ça maintenant, on ne pourra jamais avoir tant de trésors à si bas prix. Il faut en profiter parce que, voilà, donc ils le disent. Ils disent qu'il y a une affaire économique là-dedans aussi. Donc ça, il faut en parler. Mais l'idée, en tout cas, dans les débats qu'on a eus avec nos collègues sur le continent africain et avec Felwin, c'était de dire l'argent, non, en fait. C'est pas ça, c'est plus que ça, c'est notre mémoire, c'est notre histoire, c'est notre honneur, c'est notre fierté, il faut mettre fin à une forme d'arrogance, etc. Voilà. Mais après, c'est des débats, c'est dans le contexte allemand qu'avec la Namibie notamment, et les Nama, et tous ces débats autour de la réparation du génocide, où sont aussi considérées des sommes d'argent, donc on ne peut pas dire qu'il ne faut pas d'argent, mais en tout cas pour ce qui concerne les œuvres d'art, disons que le geste de restituer et d'en parler, est déjà une forme de réparation. Et restituer, ce n'est pas juste faire circuler, ce n'est pas rendre et reprendre, c'est vraiment montrer en même temps qu'on a confiance et qu'on redonne à leurs propriétaires légitimes des patrimoines dont on est persuadé qu'ils sauront en faire des choses bien, enfin, ou en tout cas, sans se mêler de ce qu'ils vont faire, sans leur dire.
Philippe Papin encore, j'ai deux petites questions très courtes parce que je crois qu'il faut se dépêcher. La première prolonge ce que vous venez de dire et pourra paraître peut-être un peu farfelu, mais dans le fond, est-ce que si les pays africains rachetaient pour une somme symbolique ces produits, est-ce qu'on n'échapperait pas complètement à la problématique juridique dont on parlait tout à l'heure? Imaginons, ce que je dis est peut-être absurde, hein, j'en sais rien, mais écoutons ça, si par exemple un masque, des choses africaines, on se mettait d'accord, ils étaient vendus, il y avait un acte, mais ça serait pour 200 euros, hein, je veux dire, une valeur symbolique, est-ce qu'on n'échapperait pas complètement à ce problème de trouver une loi générale pour le monde entier sur la restitution, dans la mesure où ça ne serait pas une restitution, mais simplement une vente? Est-ce que c'est une piste qui avait été explorée ou est-ce que c'est complètement idiot ?
En fait, non, c'est pas idiot, mais ça se heurte complètement au dogme de l'inaliénabilité des objets de musée, oui, qui sont justement incessibles, qu'on ne peut pas vendre. Ah, vous ne pouvez pas les vendre. En revanche, une formule qui est évoquée, qui est dans la discussion, ce serait plutôt de... on restitue le titre de propriété, on rend, mais les objets restent où ils sont, et en échange, les musées européens payent une sorte de location aux États. Donc ça, on l'entend souvent dans la discussion, ce qui permet, c'est une des propositions, ce qui permettrait avec l'argent de la location des pièces. Donc on imagine, il y en a en ce moment, par exemple, dans le pavillon des sessions, il y a des pièces NOC qui avaient été achetées par le musée du Quai Branly de manière illégale. Le Nigeria les a réclamées, le musée du Quai Branly a résisté et a dû finir par céder, a dû finir par les rendre. Et le Nigeria a dit, OK, elles sont bien à nous, mais elles restent à Paris et on vous les prête pour 25 ans. C'est écrit sur le label, c'est un prêt à long terme. Mais on pourrait très bien imaginer que la France paye pour cela et qu'avec l'argent dans les pays d'origine, se mettent en place les infrastructures nécessaires, etc., qui pour le moment ne sont pas là, puisque les patrimoines ne sont pas là. Quand on dit aussi de manière fallacieuse et perverse, il n'y a pas de musée en Afrique, d'abord, un, c'est faux parce qu'il y en a, j'en ai montré quelques-uns. Et deuxièmement, on connaît ça aussi autour de 1800, etc., quand les États n'ont pas de patrimoine, ils ne construisent pas de musée. Enfin, en fait, c'est d'abord la collection et après le bâtiment. On n'invente pas un bâtiment vide pour mettre des collections dont on n'espère pas qu'elles vont revenir. Donc, voilà. Voilà où il pourrait y avoir de l'argent.
Excusez-moi d'avoir posé cette question un peu terre à terre, mais je réfléchissais à la manière de dédramatiser et donc de rendre possible la chose en réalité. La deuxième question est encore plus courte. À propos de votre rapport, on voit qu'il a été publié sous forme de livre, ce qui était d'ailleurs une manière très, très futée d'éviter qu'il ne finisse dans un tiroir. Ma question est donc, je sais bien que vous l'avez fait librement, n'avez pas été rémunéré, vous l'avez expliqué tout à l'heure, mais alors, est-ce que ça pose un problème vis-à-vis de la présidence de la République, donc le commanditaire des travaux, que vous ayez, avec ou sans sa permission, publié sous forme de livre, donc pour le grand public, un rapport dont la teneur, a priori, devait être un peu confidentielle? Comment ça s'est organisé par rapport à l'administration?
Non, on a demandé et on a prévenu, enfin on a dit qu'on allait le faire et personne n'était contre. Et personne n'avait non plus dit que, enfin vous avez vu la lettre de mission, il n'est pas question d'être confidentiel non plus. C'était pas un rapport secret. Donc voilà pourquoi peut-être que tout le monde est content que ces choses soient sorties et que ce ne soit pas venu précisément de l'administration, mais de chercheurs indépendants. En tout cas, on ne l'a pas fait en douce. Mais on l'a fait, on a voulu le faire quand on a senti que peut-être il y avait un danger d'étouffement, peut-être.
Merci Bénédicte Savoie et à tous pour cette discussion passionnante. Prochaine étape, c'est le dîner à 19h30 et ensuite on enchaînera à 20h30 avec un film ici hein, qui... Tu as fait allusion à la Vénus Hottentote, c'est donc le film de Abdelatif Kechiche, Vénus Noire. Alors c'est un film assez long, hein, il fait 2h45, donc je ferai une courte présentation du film et puis on aura ensuite un débat assez court aussi pour pas être trop tard au lit. Qu'on pourra tout à fait continuer demain. C'est une sorte de. Je crois qu'aujourd'hui, cet après-midi, on a beaucoup de grains à moudre. Enfin, c'est un corpus quoi qu'on s'est donné aussi bien par les lectures que par la présentation, par exemple, des documents d'archives sur Germanin. Voilà. Donc, c'était, je trouve, important de commencer par étaler sur la table symbolique pas mal de documents. Merci beaucoup.
Et merci à moi aussi, parce que, comme le disait Antoine, c'était un peu aller regarder dans la cuisine du restaurant, là. Et c'est très, très précieux pour moi. C'est la première fois que je parlais de ces documents-là et d'en parler avec vous précisément, enfin avec des spécialistes de ces questions. Et en France, pour moi, c'était très précieux. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de la discussion et de votre intérêt. Voilà, ça me touche beaucoup et ça me fait beaucoup avancer. Merci.